Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez, votre rendez-vous socio-culturel sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur radiocampustour.com. Nous sommes le jeudi 3 février et nous enregistrons voilà nos petites chroniques pour l'émission du lundi. Comme vous le savez, chers auditeurs, le lundi, c'est le lundi des chroniques voilà, de Marie et moi-même.
Oui.
Et donc, cette semaine, on s'écoute la deuxième partie d'un reportage mené par Marie.
Voilà. Eh ben merci. Donc oui, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la dernière fois, la dernière chronique, j'étais allée au service culturel de l'université de Tours pour justement rencontrer Cécile Thomas, qui est chargée de programmation là-bas. Et dans la première partie, on parlait plus particulièrement de la salle Télém, de sa programmation, comment s'organise un service culturel, tout simplement. Et aujourd'hui, la partie que l'on va aborder, c'est plutôt ce qui tourne autour des étudiants, de leur rapport avec le service culturel. Comment est-ce que l'on réussit à attirer du public étudiant, sachant que de façon assez clichée, le public jeune ne va pas au théâtre, ne va pas avoir des spectacles, tout simplement. Donc c'est ce qu'on va s'écouter maintenant.
Eh bien, il y aura peut-être des réactions après, on verra. On s'écoute ça et on se retrouve juste après.
Il y a aussi beaucoup d'activités, il y a beaucoup de places laissées aux étudiants. Et du coup, comment ça se passe cet entre-deux, entre avoir de la place pour des professionnels et quand même accueillir les différents ateliers qui ont lieu dans l'université et laisser de la place aux associations universitaires étudiantes?
Eh bien, en fait, c'est assez simple par rapport au calendrier universitaire, parce que il y a plein de périodes où les étudiants, ils sont plutôt en train de construire leur projet. Et on peut se dire que c'est souvent en fin de semestre que les étudiants aiment proposer leurs projets parce qu'ils ont eu le temps de les construire, et puis surtout en fin d'année universitaire. Donc c'est vrai qu'à partir du mois de mars, on n'a plus de programmation professionnelle, et c'est quasiment que les programmations étudiantes qui ont lieu dans Télém. Et nous mettons notamment en place le Festival des Rencontres Audacieuses, qui est un festival exclusivement étudiant, avec toutes les créations et tous les projets que peuvent tenir les étudiants. Donc c'est un festival qui mélange les pratiques amateurs et les pratiques qu'on encadre. Donc il va y avoir aussi bien les sorties d'ateliers que aussi si quelconque personne a envie de présenter un atelier de « je sais recoudre mon bouton merveilleusement et je veux montrer à mes amis comment faire », et bien ça c'est possible. Ou bien si j'ai un groupe de rock et que j'ai envie de me produire sur une scène que l'on peut installer sur un site universitaire, c'est également possible dans ce cadre-là. Et les rencontres audacieuses, c'est lieu le 4, 5 et 6 avril, et 7 avril même, c'est 4 jours cette année, et c'est pendant les JACES, les journées à la culture de l'enseignement supérieur, qui sont mis en place par notre ministère.
D'accord.
Voilà.
Je ne connaissais pas l'existence de ces journées, ce sera une bonne raison pour y aller. Il y a aussi des activités qui ont lieu de façon plus régulière, par exemple le ciné-club. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que ce sont les étudiants qui sont d'abord venus vers le service culturel, ou est-ce que c'est le service culturel qui a demandé et des étudiants sont venus? Comment s'est passé l'organisation de tout ça?
Alors le ciné-club, il est dirigé par une enseignante-chercheuse du Master Art du Spectacle, qui s'appelle Delphine Robic, qui est cette année en arrêt pour une reprise d'études, je crois, ou non, pour un concours, enfin. Mais elle dirige quand même le ciné-club, donc elle fait un appel à candidature aux étudiants, généralement en avril, quelque chose comme ça, avril-mai, et les étudiants candidatent avec un film qu'ils pourront voir projeter la saison suivante et qui pourront accompagner avec un débat, voilà. Donc c'est vraiment cet enseignant qui met, actuellement ça se passe comme ça, qui met en place cet atelier, le ciné-club des étudiants en fait, quoi. Donc c'est vraiment les étudiants et cet enseignant, nous on fait vraiment que la communication de service culturel.
Du coup, évidemment, on parle beaucoup d'étudiants, vu que c'est le service culturel de l'université. Comment est-ce que dans l'image assez cliché, c'est surtout les personnes plus âgées qui vont voir des spectacles, etc., de toute catégorie. Comment est-ce qu'on fait pour capter l'attention des étudiants? Parce que même si on est dans une université, généralement, les étudiants ne s'arrêtent pas forcément, font peut-être pas forcément attention à la communication. Comment est-ce qu'on arrive à capter leur regard et leur attention et à le garder?
Alors, c'est un travail de tous les jours. Quand les étudiants viennent, généralement, ils sont quand même contents de ce qu'on leur propose. Donc une fois qu'ils ont mis les pieds dans Télém, souvent ils reviennent. Voilà. Donc ça, c'est déjà un bon point qui facilite les choses, parce qu'après, ils reviennent, mais avec un ami ou une amie. Et du coup, le bouche-à-oreille fonctionne très bien. Et c'est vrai que c'est notre meilleur moyen de communication, c'est celui-là. C'est pour ça qu'on est très très attentif sur la programmation, à se dire vraiment ce que je programme. En tout cas, moi, je pense sérieusement que ça va plaire aux étudiants. Je programme jamais quelque chose en me disant je sais pas trop ou je vais faire plaisir à tel prof, etc. Non, c'est pas possible. Parce que je sais que la moindre faute de programmation, elle peut être compliquée après à rattraper en termes de public. Donc voilà, pour les étudiants qui ont déjà mis les pieds dans TLM, généralement ils reviennent et on a plutôt des bons retours. Après, l'autre biais pour faire venir une première fois les étudiants dans TLM, ceux qui n'y vont, qui vont jamais au spectacle et tout ça, c'est les ateliers de pratique artistique. Parce que si on fait un atelier de pratique artistique et qu'on se retrouve sur le plateau de TLM, eh bien, on aura moins peur de venir une première fois voir un autre spectacle, voilà, dans TLM. Et puis surtout, quand on va être sur le plateau de TLM, on va amener des amis venir nous voir et assister à la programmation, à la présentation qu'on va faire. Donc là, il y a un double public. Il y a celui qui est sur scène, qui viendra certainement après pour voir d'autres choses, et puis ceux qui viennent voir, quoi. Donc là, les ateliers artistiques, c'est vraiment un autre canal. Puis après, il y a tout le travail de communication plus classique qu'on peut faire avec les réseaux sociaux. On fait beaucoup de jeux. On a un Instagram qui est très dynamique. Donc c'est souvent, très souvent, on propose une place achetée, une place offerte, ce qui permet de ne pas venir tout seul. Et puis on achète une place à 4€ et on en a une autre gratuite, on peut inviter qui on veut, il y a un petit côté ludique, voilà. Donc ça fonctionne aussi très bien. Voilà, et puis après, oui, c'est un travail de tous les jours, aussi auprès des enseignants, peut-être, parfois, qui nous aident sur certains spectacles très spécifiques. Et puis, il y a des enseignants qui emmènent des classes complètes, en fait, venir assister à un spectacle à TLM. Donc ça aussi, c'est un premier public. Et voilà. Une fois que les étudiants ont mis le pied dans TLM, c'est vrai que souvent, ils reviennent.
Est-ce que c'est plus facile de capter les élèves qui se situent au Tanner? Parce que du coup, la fac est divisée en plusieurs bâtiments et le service culturel de la salle TLM se situe au Tanner. Est-ce que c'est plus facile de toucher ces étudiants que par exemple ceux qui sont à l'IUT, donc à Tours Nord, qui est beaucoup plus loin, il y a les transports? Est-ce qu'il y a aussi un facteur géographique qui est pris en compte?
Oui, tout à fait, c'est plus facile de toucher les étudiants des Tanner, mais aussi parce que les étudiants des Tanner sont arts et sciences humaines et lettres et langues. Et donc même dans la population générale, si vous voulez, en fait, c'est quand même des personnes, avant d'être des étudiants, qui vont être plus attentifs peut-être, même si ça fait très cliché ce que je dis, mais qui vont être plus attentifs aux propositions artistiques. Donc oui, on touche plus facilement les étudiants des Tanner, mais moi je pense que c'est pas qu'une question de géographie, c'est aussi une question d'intérêt, voilà. Après, les étudiants en médecine, à partir du moment où ils ont fait leur première année, ils ont réussi leur PACES. Ils sont très friands de spectacles. Les étudiants de l'IUT en carrière sociale, ils viennent quand même très régulièrement, mais c'est vrai qu'on voit pas souvent ou moins d'étudiants de la fac de Lyon, alors qu'on fait un travail particulier sur ce public-là. Et nous, on essaie vraiment de se dire on est le service culturel de tous les étudiants. C'est pour ça que les ateliers de pratique artistique, on en fait de plus en plus sur les sites extérieurs.
Et même, il y a des spectacles, non, qu'ils ont joué aussi à l'extérieur. Par exemple, le spectacle qui a joué en fin janvier, si je me rappelle bien, il est au De Lyon.
Voilà.
Donc, comment est-ce qu'on organise, quand on a une salle de toute faite, toute construite, comment est-ce qu'on va jouer au loin, dans une salle où il n'y a pas forcément les moyens et les facteurs?
Eh bien, vous avez tout deviné. C'est très compliqué. Ça nous demande deux ou trois fois plus de travail que de faire un spectacle dans TLM. Mais c'est parce qu'on pense que c'est important de le faire. Et la nouvelle équipe présidentielle de l'université nous a vraiment demandé de travailler sur cet axe-là. Donc on essaie. On a fait une grande première tournée à la rentrée universitaire avec des siestes musicales qu'on a présentées sur tous les sites universitaires. Et là, on fait un travail particulier sur le site des Deux Lions, donc avec le spectacle Delta Charlie Delta qui aura lieu le 20 janvier de la compagnie Pauline Bourse, donc dans la salle de lecture du bâtiment A de Portalis. Donc c'est un spectacle qui est sur le site des Deux Lions mais qui est ouvert à tout le monde. C'est une fiction en fait qui parle des émeutes, enfin du procès qui a suivi les émeutes de 2005 suite à la tragédie des jeunes enfants qui se sont fait électrocuter à Clichy-sous-Bois, qui étaient coursés par la police et qui se sont enfermés dans un transformateur électrique. Le spectacle retrace le procès et aussi imagine le dialogue qu'ont pu avoir ces enfants quand ils étaient enfermés dans le transformateur électrique. en sachant qu'il y en a un qui a survécu et donc qui a assisté au procès. Cette thématique-là, du fait du procès, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de le présenter sur le site des Deux Lions, parce qu'il y a la fac de droit, et que du coup, beaucoup d'étudiants peuvent être intéressés par cette fiction, on va dire. Le spectacle est aussi associé à un atelier que va diriger Pauline Bourse, donc la metteur en scène du spectacle, sur théâtre et éloquence. Toujours en se disant que les étudiants de droit peuvent être particulièrement intéressés par un atelier sur la prise de parole. C'est un atelier qui restera ouvert à tous les étudiants en UE-CERCIP, mais il sera situé sur le site des Deux Lions pour que ce soit plus simple pour les étudiants des Deux Lions d'y accéder, en fait.
On parle justement de certains vœux de la nouvelle présidence. Quel est le droit de regard sur justement la fac, la présidence, l'administration, etc. Est-ce qu'ils ont des demandes, vous êtes obligés de les respecter, ou est-ce que ce sont des souhaits?
C'est comme partout, en fait. Oui, ils ont été élus avec un programme politique qu'ils essayent de mettre en place, ce qui est normal. Après, nous, on y répond, mais avec nos capacités, on va dire, parce que depuis le changement d'équipe n'a pas fait que le service culturel était doté d'un poste supplémentaire. Donc on y répond, mais programmer des spectacles sur les sites universitaires, c'est pas le même boulot que programmer des spectacles à Télème. Télème, c'est toujours la même capacité, c'est toujours le même cadre de scène, toujours la même scène, donc on sait quel type de spectacle rentre dans Télème, alors que sur les sites universitaires, chacun a sa spécificité, et on peut pas programmer un spectacle sans tenir compte de l'environnement du lieu, parce qu'autrement ça ne fonctionne pas. Donc voilà, si on voulait vraiment développer les spectacles sur les sites universitaires et une vie culturelle sur les sites universitaires, il faudrait des moyens financiers et humains, parce que à moins de déshabiller Télème pour programmer des spectacles sur les sites, mais comme vous l'avez dit, on a une salle de spectacle à faire fonctionner et c'est la première mission du service culturel, donc voilà.
Est-ce que du coup ces nouveaux challenges, ça donne un peu une nouvelle énergie aussi, tous ces... parce que du coup ce sont des défis de programmer des spectacles dans d'autres endroits, et est-ce que ça apporte pas aussi plus de satisfaction quand ça a lieu?
Avec la crise actuelle, c'est pas simple en fait de programmer sur les sites, parce qu'il y a peu de passages en fait, enfin il y a du passage mais qui ne vit pas en fait. Les étudiants, une fois qu'ils ont fini leur cours, ils rentrent, et ils rentrent chez eux, voilà, donc... En fait, ce qui est compliqué dans la programmation sur les sites, c'est que les étudiants, ils ne sont pas là pour ça. Et que, enfin, ça, c'est vraiment mon avis, en fait. Et que quand on programme un spectacle entre midi et deux, à part si on fait de l'animatoire, mais nous, on n'est pas dans ce cadre-là, quand on va sur les restaurants universitaires et tout ça, il y en a énormément qui tournent le dos. Parce qu'on n'est pas à notre place, en fait. Quand on a fait la tournée avec les siestes musicales à la rentrée, on a eu très, très peu de public. Très peu. Donc là, on va voir ce qui va se passer avec Delta, Charlie Delta. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est motivant, mais aussi on voit, parce que ce n'est pas la première fois qu'on fait des spectacles sur les sites, moi ça fait 25 ans bientôt que je travaille ici, donc on a déjà essayé plusieurs fois. Mais souvent, en fait, quand même, moi ce que j'en tire, c'est que je me dis, mais je ne suis pas à ma place, quoi. On a une salle à faire fonctionner, une belle salle. On met de l'énergie, on arrive à avoir 300, 400, et puis quand on fait deux séries ou deux dates d'affilée, on arrive à avoir vraiment un bon nombre de spectateurs. Alors que là, sur les sites universitaires, on va travailler deux ou trois fois plus. On va aller solliciter nos collègues des sites qui sont dans les scolarités, qui ne sont pas là pour faire ce travail-là, hein, sur la culture, parce qu'on a besoin de salles, parce qu'on a besoin de tables, parce qu'on a besoin d'électricité, voilà. On est toujours super bien accueillis, mais c'est quelque chose qui est là en plus. Et les étudiants, en fait, entre midi et deux, quand ils ont une heure, ils vont manger, quoi. Et que c'est pas le moment, en fait, pour leur proposer quelque chose. Et le soir, quand on présente des spectacles en fin de journée, en fait, il n'y a plus de public. Donc, sur les spectacles professionnels, je suis encore très réservée. On continue à le faire, hein, parce que ça a été une demande, et donc voilà. Alors, à côté de ça, on essaie une autre formule. Et j'ai plus d'espoir dans cette deuxième formule. C'est la présentation des ateliers de pratique artistique sur les sites. Comme je disais, les étudiants aiment bien voir les autres étudiants. Et je pense qu'un atelier qui a eu lieu tout le semestre sur le site des Deux Lions, à la fin de l'année... Je pense qu'il aura plus de public qu'un spectacle professionnel d'une compagnie que les étudiants ne connaissent pas, qui va arriver comme ça sur le site.
Ouais, peut-être plus d'engagement, parce que bah, je sais que par exemple, bah, moi n'étant que tanneur, aller au Hauts-de-Lyon, c'est quand même prendre le tram, etc. Donc c'est un engagement, il faut vraiment être motivé pour y aller.
Et puis les étudiants des Hauts-de-Lyon, ou les étudiants de Grandmont, ou même les étudiants des tanneurs, hein, le soir, si on a fait 30 personnes, même pas 25 personnes sur la sieste musicale au tanneur en fin septembre, c'est le bout du monde. Enfin, 25 personnes, à Télème, on parle de 300, 350, et quand on fait 350, on est moyen content. Donc voilà, après, c'est toute proportion bien gardée, on n'est que 5 ou 6, enfin voilà, ça dépend comment on se compte, mais... oui, voilà, il faudrait une autre ampleur, une autre mécanique, en fait, pour faire quelque chose sur les sites, et puis surtout que les sites soient équipés aussi bien en salle de sport qu'en salle de spectacle, mais ça, c'est autre chose.
Oui. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter ?
Venez à Télème, c'est fait pour tout le monde. On s'amuse.
De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur radiocampustour.com, c'était l'interview menée par Marie de Cécile Thomas, qui est donc au service culturel de l'Université de Tours. Et donc, qu'est-ce qu'on en a pensé alors, Marie, de cette interview ?
Je suis assez d'accord avec ce qu'elle raconte et j'ai un peu d'espoir, enfin en même temps en bossant dans la culture, je veux dire, si j'ai pas d'espoir pour ouvrir la culture aux étudiants, je pense qu'il faudrait se réorienter, mais j'aime beaucoup sa façon de voir les choses, mais je pense aussi que le problème aussi du service culturel, c'est qu'il y a peut-être pas assez de gens pour faire comme la direction, la présidence de l'université veut, c'est-à-dire ouvrir la culture à tout le monde et emmener la culture sur tous les sites de la fac. C'est quelque chose qui demande beaucoup de moyens et beaucoup de temps. Et du coup, bah, ce qu'on comprend un peu entre les lignes, c'est que c'est une équipe de 6 personnes, je crois, mais que ce n'est pas suffisant.
Pas encore assez de personnel, ouais, pour tout emmener. Et puis aussi, peut-être encore difficile d'ouvrir à tous les publics.
Exactement, aussi.
Plus les publics scientifiques, peut-être.
C'est ça, c'est comme elle le disait, c'est surtout les publics de lettres, parce que c'est un chemin de vie et un chemin culturel que tu prends dans ton orientation scolaire. Et du coup, tu as une facilité et une envie un peu plus grande d'aller au théâtre, on va dire. Mais c'est aussi casser un peu ce tabou, mais c'est la mission de toute une branche de métier maintenant. Donc, c'est un défi sur toute une vie.
Eh bien, merci, écoute, pour cette interview. On va marquer une courte pause musicale avant de se retrouver. On va s'écouter Oxmo Puccino, voilà le titre Souvenir, sur l'album L'Amour est mort. Bon, alors un titre un petit peu maussade, mais franchement, le son est très très beau. Et on se retrouve juste après.
Rappel, hein? Quand on vit quoi que ce soit de bien, à deux, imaginer que tout s'arrête. Une petite panique peut remettre les idées en place, mais quand tout est beau, c'est sujet tabou. Cette nuit, je revois les endroits où on s'est connus, les petites disputes pour la taille de tes jupes, les repas partagés. J'écoute les zik sur lesquels on s'est couché ensemble. Une pensée triste et il me semble qu'on ne sait pas aimer comme il faut. Ou en même temps je te répétais sans cesse, tu me fais pleurer, tu me disais attends. Donc en attendant notre cordon ombilical fut rompu, fut sûrement dû à tes fautes ou mes erreurs, commises puis admis. Malheureux, une bise tout de même. Après tout on s'est aimé, mais maintenant c'est fini, n'est-ce un fait suffisant? On joue les malins, on se plaint de la lassitude, puis un jour la solitude rejoint la vie. Je regrettais pas d'avoir été ami, de s'être aimé un peu, d'avoir connu l'unité. Même si c'est fini, ce qui tient debout c'est tous ces souvenirs. Y'a que les souvenirs qui tiennent debout. Je regrettais pas d'avoir été ami, de s'être aimé un peu, d'avoir connu l'unité. Même si c'est fini, ce qui tient debout c'est tous ces souvenirs. Y'a que les souvenirs qui tiennent debout. Tous témoignaient de notre amitié chaque nuit devant les portes des nightclubs. Les secrets partagés au fil des âges, les visages ont changé sans songer au pire, jusqu'à ce jour injuste où l'un nous a failli. Ah oui, après c'est sûr qu'il fallait pas, à force de n'en faire qu'à sa tête, on s'en rend compte trop tard. Et admettre la fierté est un mal de l'être, aussi un mal des lettres mal assemblées. Comment communiquer
vois comme on est niqué. Le lait est une source d'ennui public si c'est passé entre nous. C'est que nous n'étions pas si proches que ça, qu'est-ce que ça. Tendre la main aux amis sans fermer les doigts, y perdre le bras. Laisse le regretter pas d'avoir été ami, de s'être aimé un peu, d'avoir connu l'unité. Même si c'est fini, ce qui tient debout c'est tous ces souvenirs. Y'a que les souvenirs qui tiennent debout. Ne regrettez pas d'avoir été ami, de s'être aimé un peu, d'avoir connu l'unité. Même si c'est fini, ce qui tient debout c'est tous ces souvenirs. Y'a que les souvenirs qui tiennent debout. Il est mort, t'es pas d'accord, et bien profite. Et si mes mots te touchent, tu te discrètes. Je remémore, encore et ça te remémore. Sans ressusciter dans mes propos, pas de métaphore. Qui n'est pas bouleversé d'observer des adversaires qui autrefois chantaient en cœur joyeux anniversaire. Vaut mieux penser aux batailles qu'on a gagnées ou perdues ni. Chaque amitié est unique. Je verse de la liqueur en mémoire de nos souvenirs. C'est l'ivresse des souvenirs qui tient debout. Ne regrettez pas d'avoir été ami, de s'être aimé un peu, d'avoir connu l'unité. Même si c'est fini, ce qui tient debout c'est tous ces souvenirs. Y'a que les souvenirs qui tiennent debout. Ne regrettez pas d'avoir été ami, de s'être aimé un peu, d'avoir connu l'unité. Même si c'est fini, ce qui tient debout c'est tous ces souvenirs. Y'a que les souvenirs qui tiennent debout. Ne regrettez pas d'avoir été ami, de s'être aimé un peu, d'avoir connu l'unité. Même si c'est fini, ce qui tient debout c'est tous ces souvenirs. Y'a que les souvenirs qui tiennent debout. Ne regrettez pas d'avoir été ami, de s'être aimé un peu, d'avoir connu l'unité. Même si c'est fini, ce qui tient debout c'est tous ces souvenirs. Y'a que les souvenirs qui tiennent debout. Ne regrettez pas d'avoir été ami, de s'être aimé un peu, d'avoir connu l'unité. Même si c'est fini, ce qui tient debout c'est tous ces souvenirs. Y'a que les souvenirs qui tiennent debout.
De retour sur Radio Campus Tours 99.5 FM ou sur radiocampustours.com. Nous sommes déjà dans la deuxième partie de cette émission, voilà, de cette émission des chroniques du lundi. Et pour poursuivre cette émission, voilà, après l'interview de Cécile Thomas,
oui.
Eh bien, je vais poursuivre moi-même.
Oui, c'est à ton tour. On continue dans ta chronique Le poids des mots. Et de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Maxime ?
Alors, je vais aujourd'hui vous parler d'une expression bien connue de tous, la fin justifie les moyens. Cette petite phrase, souvent utilisée pour désigner quelqu'un prêt à tout pour réussir, nous la devons au penseur italien de la Renaissance, Nicolas Machiavel, qui a lui-même donné l'adjectif machiavélique. Je vous propose de vous emmener dans une enquête menée par le journaliste Philippe Pujol.
Et du coup, qui est Philippe Pujol et sur quoi travaille-t-il ?
Alors, ce journaliste arrive à Marseille en 1977 à l'âge de 2 ans. Il grandit dans un quartier populaire et suit des études de biologie et d'ethnographie des populations. Après avoir travaillé comme vigile, il s'oriente vers des études de journalisme. En 2003, il rentre comme stagiaire au quotidien La Marseillaise. Son excellente connaissance du territoire, sa volonté d'expliquer sans juger ni justifier par une subjectivité honnête, comme il le dit lui-même, lui permettent de décrocher le prix Albert Londres en 2014 pour Quartier Shit, une série d'articles sur la drogue et le banditisme à Marseille. Son cousin, Ivan Benedetti, militant fasciste d'extrême droite situé à son opposé idéologique, fait l'objet d'un de ses livres. Mais son objet d'étude favori se concentre principalement sur Marseille.
Et justement, qu'est-ce qu'il nous raconte des rouages politiques de Marseille ?
Le système marseillais explique le délabrement des quartiers populaires. Son documentaire « Péril sur la ville » témoigne de l'ampleur du désastre dans le quartier Saint-Mauron. Dans « La chute du monstre », livre écrit après l'effondrement d'un immeuble rue d'Aubagne, ayant entraîné la mort de 8 personnes, Philippe Pujol dénonçait déjà un système basé sur le clientélisme électoral. Ainsi, j'aimerais, pour introduire le travail de ce journaliste, vous parler un peu de politique. Un sujet vaste, complexe, si présent et diffus dans le monde contemporain qu'il est difficile d'en établir une définition exhaustive. Dans le modèle démocratique français, la politique est faite de partis, de partisans et d'élus, donc de clivages entre différentes positions, différents passages vers le chemin du pouvoir, emmenés par un programme fait de convictions réelles ou fictives. Ces convictions ne font pas l'objet de mon propos, il ne s'agit pas d'un réquisitoire envers un parti ou d'une ligne politique, ni de ses représentants d'ailleurs, mais plutôt de comprendre un système de possession et d'accès au pouvoir par les élus, son emprise et ses conséquences sur les plus démunis.
Quel est le lien que l'on peut faire avec Machiavel, du coup ?
Eh bien, j'y viens. C'est en lisant un passage du Prince, écrit donc en 1515 par Machiavel, qu'il m'a semblé évident d'en parler. Cet auteur fait partie des penseurs politiques les plus influents de notre millénaire. En français, il donne l'adjectif machiavélique, désignant la perfidie d'un individu. Dans son ouvrage Le Prince, il explique l'art de prendre et de conserver le pouvoir, ce qui, pour lui, passe par un impératif, garder le pouvoir à tout prix, tout simplement. Il le dit en effet clairement dans le chapitre 15, « Un prince qui veut se maintenir doit apprendre à ne pas toujours être bon et à user selon la nécessité du bien ou du mal. » Ainsi, la théorie machiavélienne peut se résumer à travers une phrase que je vous ai dite en début de cette chronique, « La fin justifie les moyens ». Cette phrase peut être appliquée au rouage politique décrit par le journaliste Philippe Pujol et utilisée par certains élus marseillais. On découvre en effet dans son livre qu'un monde politique, gangréné par la volonté de garder sa place, en utilisant des quartiers comme potentiels leviers électoraux. Cependant, comme le remarque le journaliste, les élus ne sont pas foncièrement véreux, ils veulent juste être élus. En effet, malgré les convictions réelles, c'est dans l'exercice du pouvoir qu'ils deviennent machiavéliens. Compromis, puis compromission dès que l'élection en dépend, et dès lors qu'ils s'y mettent tous, s'y refuser, revient à capituler et en perdant un mandat à perdre sur ses idéaux d'origine. La théorie machiavélienne prend ainsi tout son sens, la fin, ou autrement dit être élu, justifie les moyens, compromission, corruption et clientélisme.
Donc en fait tout ceci est fait au détriment de la morale.
En effet, les quartiers nord de Marseille se révèlent être un formidable laboratoire pour l'expérience machiavélienne. Quand la misère accapare la vie de quartier, ni la politique, ni l'intérêt collectif ne concentrent un atome d'intention. En revanche, l'argent, peu importe la provenance, est dans toutes les ambitions. La méthode est donc simple, comme l'explique un ancien élu de ces quartiers. Tu arroses quelques leaders, quelques relais associatifs, communautaires et criminels, et comme ça tu le tiens, ton secteur. Marseille semble donc être le laboratoire parfait pour notre expression machiavélienne, l'élection justifie toujours les moyens. Mais une chose demeure, ce sont toujours les citoyens qui en payent le prix.
Eh ben merci beaucoup pour ces recommandations. Du coup, on a plusieurs choses à développer et à aller voir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.
Voilà, je conseille aux auditeurs tous les ouvrages de ce journaliste vraiment ultra documenté.
Parfait.
À la semaine prochaine, Marie.
À la semaine prochaine.
Quant à nous, chers auditeurs, on poursuit cette émission avec la rediffusion du podcast 28 minutes, le magazine d'actualité d'Arte, présenté par Elisabeth Quin. Et cette semaine, c'est la Birmanie qui est au cœur de l'actualité. Et depuis déjà un an, la Birmanie est plongée dans un état fantomatique après l'appel à la grève silencieuse lancé à l'occasion du premier anniversaire du coup d'État survenu le 1er février 2021. Un an après les faits, quel bilan faire dans ce pays meurtri ? L'armée s'attendait-elle à une telle résistance du peuple ? Les intervenants en débattent dans cette émission.
Des boutiques fermées et de longs applaudissements. Depuis leurs fenêtres, les Birmans ont défié la junte au pouvoir en répondant à l'appel à la grève lancé par des opposants un an après le coup d'État qui a plongé la Birmanie dans la violence. Le 1er février 2021, l'armée a mis fin à 10 ans de transition démocratique. Le gouvernement d'Aung San Suu Kyi a été renversé, la prix Nobel de la paix arrêtée. Ses partisans sont alors descendus dans la rue.
Nous demandons juste qu'Aung San Suu Kyi revienne et que le pouvoir soit entre les mains du peuple. Nous ne voulons pas que les militaires dirigent le pays.
La junte a violemment réprimé les manifestations. L'ONU estime que 1500 civils ont été tués en un an. 9000 autres sont actuellement détenus par un régime accusé d'arrestations arbitraires et de torture. Face aux putschistes, plusieurs groupes armés de différentes ethnies ont pris les armes, rejoints par de nombreux jeunes.
Au début, on a protesté pacifiquement, mais cela n'a pas fonctionné. On n'aurait jamais pensé être là, dans la jungle, à nous battre contre des militaires.
Leurs positions sont régulièrement bombardées par l'armée birmane qui attaque les zones considérées comme rebelles. Des centaines de milliers de Birmans ont déjà fui vers la Thaïlande.
On a dû se cacher pendant que notre village était bombardé. On s'est réfugié ici, en Thaïlande, en espérant être à l'abri des frappes aériennes.
Alors, comment mettre un terme à la répression militaire? Des sanctions économiques de la communauté internationale peuvent-elles faire plier la junte? Un retour de la transition démocratique est-elle encore possible en Birmanie?
Trois invités qui vont nous aider à comprendre ce qui se passe en Birmanie. Guillaume Pajot, bonsoir, vous êtes journaliste. Vous avez coécrit avec Tinsar Chumleyi, qui est militante des droits de l'homme et activiste birmane, « Mon combat contre la junte birmane », qui a été publié chez Robert Laffont. Et selon vous, la résistance ne faiblit pas là-bas. Les rebelles ont remporté des victoires inédites sur le terrain. Il y a le sentiment d'une victoire possible à plus ou moins longue échéance. À côté de vous, Sophie Boisseau-Durocher, bonsoir. Vous êtes chercheuse au Centre Asie de l'IFRI. Vous estimez que la population birmane ne veut tellement pas d'un retour au régime militaire qu'elle perçoit le chaos dans lequel elle s'enfonce ainsi que le pays comme une tendance encourageante. Et enfin Sophie Brondel, bonsoir, vous êtes coordinatrice de l'association Info Birmanie. Selon vous, le pays est à l'arrêt, les Birmans cherchent à saboter la junte par l'économie et boycottent tout ce qui émane de l'armée. L'économie est dévastée, la crise humanitaire évidemment a démarré. On va bien sûr préciser tout ceci, mais on va revenir sur la férocité, la cruauté de cette junte avec le chiffre du jour, Claude.
Oui, un chiffre du jour qui est peut-être sous-estimé, mais qui donne la mesure de la cruauté de la junte militaire, qui a donc pris le pouvoir il y a un an et un jour, 1500, comme le nombre de personnes, chiffre donné par l'ONU, qui auraient été tuées par les militaires depuis un an. Question pour vous, Guillaume Pajot, on l'a vu, pourtant les gens ont fait grève, pourtant les gens se battent, témoignent parfois à visage découvert. Comment expliquez-vous cette résistance du peuple birman, ou des peuples birmans, en dépit de la férocité de la junte ?
Je pense que, pour commencer, les Birmans inscrivent leur mouvement dans quelque chose d'historique. Ça n'a pas commencé en 2021, les mouvements populaires contre les militaires. On se souvient de 1988, grand mouvement où émerge Aung San Suu Kyi, qui prend le lead pour mener la fronde contre les militaires. On se souvient de 2007, les images qui sortent, filmées par des journalistes amateurs, de la répression contre les moines au moment de la révolution de Safran. Et 2021, la révolution de printemps, comme ils l'appellent, avec des jeunes, des étudiants, un mouvement qui traverse toute la société et qui s'inscrit dans cette continuité et dans une évolution aussi sociale.
Quelle évolution sociale ?
Aujourd'hui, ce qu'on voit dans ce mouvement, c'est que c'est un mouvement qui est beaucoup plus pluriel que ce qu'il pouvait être autrefois, notamment une main tendue envers les minorités ethniques.
D'accord.
Des regrets pour ce qui s'est passé, les persécutions contre certaines minorités comme les musulmans Rohingyas, je pense qu'on en reparlera.
Oui, oui.
Voilà, donc c'est un mouvement beaucoup plus inclusif, avec toutes ces références historiques.
Claude. Sophie Boisseau-Durocher, est-ce que les militaires s'attendaient à une telle résistance et est-ce qu'ils ont commis une erreur en déchirant le compromis qu'ils avaient passé avec Aung San Suu Kyi ?
Probablement. Je crois qu'ils ne s'attendaient effectivement pas à cette résistance. Ça, c'est une chose très claire. D'abord, ils sont dans leur baraquement, donc ils sont éloignés des évolutions sociétales et ils n'ont pas vu venir, si vous voulez, l'émergence, l'organisation de cette société civile. Et au fond, quand on interrogeait les Birmans depuis 2010-2012, on voyait bien qu'il y avait une prise de conscience politique qui s'est traduite par cet engagement absolument inédit en 2021, mais comme le disait Guillaume, cet engagement, il s'assied sur d'abord un engagement à plus long terme, et puis il s'assied sur une société civile qui est solidaire aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau que les militaires n'avaient absolument pas anticipé.
Sophie Brondel, c'est une société civile qui se sent volée. On ne vivait pas totalement en démocratie avant le coup d'État, les Rohingyas peuvent en témoigner, mais on était dans une transition. Est-ce qu'il y a la peur d'un retour à un ordre ancien qu'on croyait révolu ?
Oui, bien sûr, l'ordre ancien du compromis politique qui faisait que le gouvernement semi-civil d'Aung San Suu Kyi devait composer avec le pouvoir de l'armée qui détenait trois ministères clés et un pouvoir politique important, 25% des sièges à l'Assemblée. Et donc les Birmans ne veulent plus de ce compromis. Ça, c'est un message très clair qu'ils expriment, d'où leur résistance qui prend de multiples formes et qui marque ce refus vraiment d'un retour en arrière et de ce compromis.
Oui.
Là, on n'est pas du tout dans un compromis, on est dans un régime militaire. Hein. Donc on n'est même pas dans la situation, je dirais, 2012-2021, on est dans la situation antérieure à 2010, où les militaires contrôlent tous les rouages de l'État et l'appareil économique.
Guillaume Pajot, la Birmanie, on est en train d'en parler avec des termes classiques, hein, un pouvoir militaire, une résistance de la société, en réalité, c'est un pays infiniment complexe, un groupe majoritaire qui est bouddhiste, mais plein de minorités. Il y a plusieurs guérillas qui travaillent ensemble, qui ont groupé leurs forces contre les militaires. Essayez de nous décrire cette société, ces sociétés en lutte.
Il y a 135 ethnies, n'est-ce pas ?
Beau challenge que de décrire
oui.
ça.
Quelques
phrases. Il y a une carte qui peut illustrer ça, mais c'est complexe.
En vérité, la Birmanie est fracturée depuis son indépendance, depuis sa naissance en 1948. Des promesses ont été faites à l'époque de fédéralisme et d'autonomie pour les minorités ethniques de Birmanie, anciennes propriétés coloniales de la Grande-Bretagne.
Qui sont parfois chrétiennes, parfois musulmanes, les Rohingyas.
Exactement.
Parfois,
et en fait, ces promesses n'ont jamais été tenues et très vite ont commencé des guérillas ethniques, c'est-à-dire revendiquant leur autonomie, la gestion de leur territoire comme elles l'entendaient. Et ces guérillas ont prospéré, se sont parfois affaiblies, ont parfois redoublé d'intensité, des cessez-le-feu ont été négociés. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est...
Est-ce qu'on voit une convergence des guérillas ou des ethnies ensemble pour lutter contre le pouvoir central de la junte ?
Alors, la junte rêve de diviser les ethnies et d'en attirer le plus possible à ses côtés. Mais il s'avère que pour l'instant, les guérillas ethniques les plus... certaines des guérillas ethniques les plus puissantes, pas toutes, sont en cheville ou protègent les manifestants, les activistes, les membres de la Ligue nationale pour la démocratie.
Comment vous expliquez cette alliance nouvelle, donc, semble-t-il, entre les minorités ? Pourquoi aujourd'hui et pas avant ?
Je pense qu'il y a une convergence d'intérêts aujourd'hui. Il y a une opportunité pour les minorités ethniques d'obtenir des droits comme jamais, puisque les membres de la majorité politique vont avoir une dette.
J'interromps simplement. Il y a aussi une révolte à l'intérieur du groupe majoritaire, les bouddhistes Bamar. Et c'est ça qui est nouveau, Sophie Boisseau de Rocher.
Alors,
dans le groupe majoritaire pour lequel cette société avait été inventée, eh bien, on se révolte aussi.
Oui, ce qui est nouveau, si vous voulez, c'est qu'il y a aujourd'hui, pour la première fois, un vrai élan national, parce que cet élan n'a jamais pu s'exprimer avant. Il ne faut pas oublier non plus un point qui n'a pas été évoqué, c'est que les richesses du pays se trouvent dans les territoires ethniques. Hein, et que donc, si l'armée veut s'enrichir, elle doit contrôler ces territoires. Et que la meilleure façon de contrôler les territoires, c'est de les diviser. Parce qu'au départ, le projet d'Aung San était de créer une fédération.
Le dictateur.
Voilà. D'Aung San, son père.
Ah, pardon.
En 1947, d'accord. Avec la conférence de Panlong. Et ce que Aung San Suu Kyi, d'ailleurs, a repris après avec Panlong II. Donc ça, c'est un point qui est aussi très important. Aujourd'hui, précisément, je dirais que les militaires font l'unanimité contre eux. Et donc, il y a une urgence, et il y a eu des discussions qui ont été lancées depuis déjà 2012, 2015, et puis là, à partir de 2018, pour essayer de repenser cette nation birmane. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est étonnant, c'est que la logique s'est renversée contre les militaires qui font l'unanimité contre eux. Et donc, on réfléchit à une nation inclusive.
Faites-nous écouter un ministre du gouvernement birman en exil.
Aung Myo Min, il est ministre des droits humains du gouvernement donc démocratique, qui a été chassé du pouvoir. Il parle des militaires, écoutez bien, singulièrement à la fin de son intervention.
Les militaires intensifient la violence. Ils attaquent les villes, ils attaquent les populations civiles. Et il y a aussi d'anciens militaires qui nous ont rejoints parce qu'ils ne veulent plus participer à ces crimes.
Sophie Brondel, il y a donc des désertions, des défections dans l'armée. Comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que ça s'organise ?
Comment ça s'explique ?
Oui, il y a des défections. Alors, elles sont difficiles à chiffrer, puisqu'on parle d'environ 2000 soldats et policiers qui ont fait défection. Et en fait, ces défections, elles s'expliquent tout simplement par le fait que ces soldats, ces policiers, voyant qu'on leur ordonne de tuer les citoyens, de commettre des massacres, de se comporter de la sorte, le refusent et font défection. On considère en fait que ces défections pourraient être encore supérieures à ce chiffre. Mais il faut savoir que l'armée birmane en fait contrôle les familles des militaires qui vivent dans des casernes et donc c'est difficile pour des soldats qui le souhaitent de partir. Donc ceux qui le font ont sans doute la possibilité de le faire à leur risque et péril aussi. Et il faut savoir que le gouvernement d'unité nationale qui s'est mis en place au lendemain du coup d'État en fait essaye de proposer un programme qui facilite la désertion de ces soldats et de ces soldats en leur permettant d'être exfiltrés vers les zones zones libres contrôlées par les organisations ethniques armées, en les prenant en charge, en les accompagnant. Alors toute la question, c'est de savoir comment ces défections vont se développer dans les mois à venir, mais c'est assez marquant puisqu'il y a une campagne d'interpellation. Ces soldats mènent des campagnes sur les réseaux sociaux pour appeler leurs frères en armes, en fait, de faire de même. Donc c'est quand même des messages assez forts.
Sur les défections, j'ai travaillé sur le sujet et je me suis entretenu avec pas mal de défecteurs, notamment sur la question de leur famille. Et c'est intéressant de voir la façon dont, comme le précisait Sophie, l'armée tient les familles des défecteurs et fait société dans la société, en fait, et crée une sorte de bulle autour des soldats pour effectivement leur faire ignorer au maximum la réalité, les abreuver de propagande et les garder sous leur contrôle.
Sophie Boisseau-Durocher, quelle est la situation économique du pays ? Vous évoquiez tout à l'heure les richesses qui étaient principalement réparties dans les zones ethniques, contrôlées par les ethnies et qui sont armées. Quelle est la situation économique ?
La situation économique est absolument dramatique. il y a de toute façon déjà une récession, puisqu'on estime que le PIB a chuté de 18%, donc c'est vraiment
depuis
important.
Depuis un an.
En 2021, donc c'est très important. Les investissements extérieurs ont également chuté. Donc on est véritablement dans une situation où il n'y a plus d'avenir, si vous voulez. Le kyat, la monnaie nationale aussi, s'est effondrée. Donc on est dans une situation de survie, la population survit. On estime aujourd'hui qu'il y a environ entre 15 et 20% de Birmans pour qui la sécurité alimentaire n'est pas assurée. Donc on est
véritablement
dans une impasse, si vous voulez, économique. Les seuls vrais partenaires économiques de du Myanmar, de la Birmanie, sont la Chine, l'Inde et un peu la Thaïlande, mais de façon moins tranchée. Donc on est véritablement aujourd'hui dans un chaos où la population ne peut pas avoir aucun espoir.
Alors avec vous, Nadia, on évoque le fait nouveau de multinationales étrangères qui quittent le pays, se désengagent. Pour quelles raisons? Vous allez nous le dire.
Exactement, c'est un revirement majeur et très attendu, espéré même par les ONG, puisque vendredi dernier, le groupe français Total Energy, anciennement Total, a annoncé son départ de Birmanie et donc son retrait du champ gazier de Yadana. Il l'exploitait depuis les années 90. Dans son communiqué, le groupe cite, je cite, un contexte qui ne cesse de se dégrader en matière de droits humains. En réalité, il semble surtout avoir réagi aux pressions de centaines d'organisations internationales qui accusaient Total de complicité avec les crimes de la junte, puisque les impôts et les taxes dont le groupe s'acquittait depuis de longues années pour exploiter ce gaz-là, ça a fourni à la junte des sommes absolument colossales. On peut parler de plusieurs millions de dollars, voire plus encore. Et c'est un mécanisme également d'optimisation fiscale qui a profité à de très nombreux militaires. J'ajoute que l'Américain Chevron et l'Australien Woodside, eux aussi donc des groupes pétroliers, ont annoncé à leur tour qu'ils allaient plier bagages. La question aujourd'hui, c'est est-ce que les revenus perçus par la junte vont être affectés par les départs? Pas sûr du tout, dans la mesure où finalement le retrait ne sera effectif que dans 6 mois. Ça laisse donc le temps au paiement de continuer à affluer. Et il y a le risque également que Total soit remplacé par d'autres opérateurs. Guillaume Pajot, en effet, est-ce qu'on peut se satisfaire de ça? Et est-ce qu'il y a un moyen, in fine, de priver la junte de ces ressources-là? Je pense au pétrole, mais peut-être aussi au diamant ou à d'autres ressources.
Tant que des entreprises étrangères accepteront de nouer des partenariats avec des entreprises militaires pour l'exploitation de ces ressources naturelles, effectivement, la junte parviendra à gagner de l'argent et se financer grâce à ces projets.
Combien d'argent on parle? Ça représente quelle somme?
Vous avez dit des millions, mais c'est des centaines de millions.
Oui. Voilà. Mais s'en aller, ça induit un dilemme qui est que les populations vont être encore plus mal nourries et que la crise humanitaire va s'accélérer. Non, Sophie?
Moi, je crois, si vous voulez. C'est très En tout cas, les entreprises qui travaillent avec les militaires, il faut effectivement qu'elles se retirent. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on doit retirer tous nos investissements? Il y a aussi des entreprises pharmaceutiques, des textiles, etc., qui font travailler des Birmans. Les Birmans en ont besoin. C'est une vraie question.
Sophie Brondel, mais la population birmane, les populations birmanes en lutte, acceptent la déshérence économique pour faire tomber la junte. Il y a un courage qui confine presque au suicide, mais un suicide militant.
Martyr, en tout cas. Mmh. Oui, oui, le boycott des produits militaires, puisque l'armée détient d'énormes intérêts économiques, est une campagne portée par les Birmans face à la junte. Il y a une volonté vraiment de saborder la junte de l'intérieur en coupant ses sources de revenus. Donc par rapport aux revenus gaziers, c'est une demande très forte de la société civile birmane de couper ses revenus. Et donc maintenant que Total a annoncé son départ, la prochaine étape, c'est pour les États, la France notamment, qui doit appuyer ces sanctions, et les États-Unis, l'Union européenne, d'adopter des sanctions sur la Myanmar Oil and Gas Enterprise qui gère le secteur gazier qui représente plus $1 milliard de revenus par an pour la junte. Et maintenant que Total, Chevron, etc., Woodside annoncent leur retrait, les États qui bloquaient les sanctions sur la Myanmar Oil and Gas Enterprise, comme la France par exemple, par rapport à la présence de Total, n'ont plus cet argument et doivent vraiment agir, puisque effectivement, face à cette résistance incroyable du peuple birman, il faut que les États fassent tout ce qui est en leur pouvoir et donc sanctionnent ces revenus pour tarir les ressources de la junte. C'est la moindre des choses.
On va terminer tout à l'heure avec un mot à propos de l'ONU et on s'intéresse à l'émissaire de l'ONU pour la Birmanie. Elle s'appelle Noëlène Heiser. Son portrait par Thibault Nolt.
Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Ma chère Noëlène Heiser, j'ai vos radios sous les yeux, c'est pas du cinéma. Vous êtes singapourienne, avez largement l'âge de la retraite, mais venez d'être nommée le 25 octobre dernier par le secrétaire général de l'ONU, envoyée spéciale pour la Birmanie. Autrement dit, vous acceptez de faire du coup d'État, des exactions, de la tyrannie, votre quotidien. Sans sueur et larmes, à l'heure du bridge et des réunions Tupperware.
So is this going to be a difficult job? In fact, it's been called an impossible job.
Avant ce rôle dans Mission Impossible dans le Marigot birman, vous aviez fait votre lit du féminisme international de haut niveau. Directrice exécutive du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme, devenue ONU Femme, qui a pris du muscle sous votre autorité, passant de petits machins à grosses machines à fabriquer de l'égalité pour les femmes en Afrique, au Timor oriental ou en Afghanistan. C'est vous qui avez fait entrer les femmes dans les principales préoccupations de l'ONU. Et c'est encore vous qui avez injecté de la paillette dans l'œil du monde riche et blasé en faisant de Nicole Kidman une ambassadrice de bonne volonté dans cette campagne contre les violences faites aux femmes. Vous savez, Nicole avait échappé à la scientologie. Elle pouvait sauver le monde. Votre accointance avec la Birmanie remonte à 2009. Vous avez pris du galon à l'ONU, vous êtes sous-secrétaire général des Nations Unies et aussi secrétaire exécutif de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique. Le pays vient d'être frappé par un cyclone. Et vous gambergez sur sa résilience économique et sociale. Cette fois, vous embarquez Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie. Et à force d'échanges et de partenariats, la Birmanie sort un peu de son isolement. Bravo. Oui, bah, sauf que maintenant, il faut tout recommencer. Alors cette fois, j'emmène Nicole. Ma chère Noëline, proposez-lui donc un rôle dans Tarzan, roi de la junte.
Merci Thibault Nolt. Claude.
Sophie Brunel, on l'a évoqué, l'ONU ne parle pas d'une seule voix, la communauté internationale n'est pas unanime. Il y a des pays qui soutiennent la junte, il y a des pays qui arment la junte. Quels sont-ils ?
La Chine, la Russie sont les principaux soutiens diplomatiques et en armes. Alors la Russie, c'est plus récent, mais depuis le coup d'État, en tout cas en armes de la junte. Parmi les pays fournisseurs d'armes, il y a aussi l'Ukraine, Israël, l'Inde, et donc effectivement des alliés puissants. La question de l'embargo sur les armes qui ne peut pas être adopté par l'ONU en l'état, puisque la Russie et la Chine ont droit de veto au Conseil de sécurité, et jusqu'à présent, ça a bloqué l'adoption d'un embargo au niveau de l'ONU.
Aung San Suu Kyi, pardonnez-moi, Guillaume Pajot, la figure d'Aung San Suu Kyi était une icône mondiale qui a fini par décevoir parce qu'elle n'a pas condamné les exactions commises contre les Rohingyas. À quel moment le peuple birman, dans son ensemble ou dans sa diversité, peut devenir une cause internationale ?
C'est une vaste question. Ce qui est certain, c'est que vous avez commencé votre question en parlant d'Aung San Suu Kyi, et je pense que c'est important. Et votre question, elle fait le mouvement, en fait, de ce peuple-là aujourd'hui. Et ils sont en train... Aung San Suu Kyi reste une figure fédératrice, extrêmement forte, aucune question là-dessus. Mais ils sont en train d'évoluer vers quelque chose d'autre, vers une pluralité politique, vers des formes différentes.
Il y a des figures d'opposition qui émergent ?
Oui, des jeunes membres du gouvernement d'unité nationale qui centralisent un petit peu l'opposition à la junte militaire et qui incarnent l'opposition politique. Des figures comme Tin Zhaoxun Lei,
avec laquelle vous avez coécrit.
Voilà. Des gens qui seront amenés à prendre des responsabilités dans les années qui viennent et à faire une sorte de succession à Aung San Suu Kyi qui centralisait quand même l'opposition politique depuis des années en Birmanie.
Il faudra une reconnaissance diplomatique du gouvernement que vient d'évoquer Guillaume Pajot de la part de la communauté internationale pour aider ces Birmans sacrificiels, comme vous disiez tout à l'heure.
Eh bien, si vous voulez, comment peut-on aider véritablement les Birmans sur le terrain ? Le premier point, c'est de reconnaître qu'il y a une opposition politique et que cette opposition politique, elle est fiable. Donc la reconnaissance du gouvernement d'unité nationale me semble être une première étape. Et puis, après, comprendre comment on peut aussi logistiquement les aider. C'est un combat qui va être très long. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la junte importe des avions de chasse et puis des hélicoptères de Russie. On les attend et donc les frappes aériennes vont se multiplier et ça va être une nouvelle étape dans la guerre civile. Et que va-t-on faire à ce moment ? Qu'est-ce que l'Occident va faire à ce moment-là ?
Sophie Brondel, vous imaginez un avenir heureux possible à terme pour la Birmanie ?
Je le souhaite et je crois que tous nos contacts, nos partenaires birmans le rêvent et l'espèrent. Donc nous, on a le devoir en fait de partager ce rêve et de tout faire pour les accompagner, pour les aider en fait dans ce combat à notre modeste niveau. Et donc par rapport à la lutte du peuple birman actuel, tout ce qu'on peut dire, c'est que tant qu'on n'aura pas tout entrepris, et là je parle des États, des organisations, des citoyens, tant qu'on n'aura pas tout fait, on ne pourra pas confisquer ce rêve en disant votre lutte est perdue d'avance, parce que ce n'est pas vrai. Et ensuite, il reste encore beaucoup à faire pour soutenir la lutte du peuple birman.
Merci à tous les trois et merci pour cette espérance, Sophie Brondel.